RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules à un mois des élections municipales du premier tour. Donc les grandes gueules vont se déplacer dans les endroits qui vont être regardés, qui vont focaliser l'attention. Ces villes qui seront à la fois un enjeu important local, mais avec des enseignements nationaux. Les grandes gueules seront à Marseille le jeudi 19 février au Palais de la Bourse, 9 rue de la Canebière, c'est-à-dire jeudi prochain. Et nous serons à Lyon le 24 février aussi au Palais de la Bourse, 20 rue de la Bourse.
À Marseille dans une semaine, ça va être passionnant. Parce que ce qui se passe à Marseille, c'est qu'on a un maire sortant socialiste, Benoît Payan, mais qui pourrait être battu par le candidat RN, Franck Alizio. Mais il y a aussi deux autres candidats qui pourraient se maintenir au second tour, la droite avec Martine Vassal et LFI avec Sébastien Delogu. Donc on est dans une configuration où il y a un suspense total, un peu comme à Paris ou à Lyon. Et c'est les grandes villes peuvent basculer. Et puis Marseille, ben on se souvient des déplacements de Macron sur le thème de la lutte contre le narcotrafic. On ira sur place voir si ça progresse de ce côté. Là. Et puis, effectivement, les Marseillais se sentent un peu plus en sécurité.
Et à Lyon, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra tourner peut-être une page politique pour confier la ville à un chef d'entreprise. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir que c'est peut-être la société civile qui va prendre la ville de Lyon. C'est Jean-Michel Aulas qui serait le favori des sondages. Donc, les grandes gueules à Marseille jeudi prochain le 19 et à Lyon le 24 février au Palais de la Bourse dans les deux cas. Un côté 9 rue de la Canebière.
Ouvert au public, hein.
Et l'autre, bien sûr. C'est pour ça que vous avez l'adresse public@rmc.fr pour venir assister à l'émission parce qu'on a un nombre de places limitées. De quoi va-t-on parler maintenant? Ah oui, du verrouillage prévu par le président de la République. Alors. Pourquoi est-ce qu'on parle de verrouillage? Parce que ce sont les accusations de l'opposition. Vous savez qu'il y a la nomination de Madame Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, mais il y a une autre nomination que va devoir faire le président de la République. C'est qui va prendre la Banque de France, sachant que François Villeroy de Gayot, le patron de la Banque de le gouverneur de la Banque de France, s'en va et il s'en va très content de son bilan. Il l'a posté sur les réseaux sociaux.
Bah tiens.
Alors d'ici juin, je quitterai ma mission. En ayant le sentiment d'avoir, au bout de près de 11 ans, accompli l'essentiel de mon devoir.
Bon, il est content, lui, c'est normal. Je pense toujours à Jacques Maillot. Le président Maillot, dans les grandes gueules, se posait la question, pourquoi a-t-on gardé une Banque de France? Il y en a d'ailleurs à Paris, mais il y en a partout en province. Il y a des bâtiments, enfin, ça nous coûte assez cher, alors qu'on est passé à l'euro. Il a jamais bien compris pourquoi on avait besoin d'une personnalité qui défend une Banque de France, alors qu'elle n'existe plus, la Banque de France. Factuellement, maintenant, c'est la Banque européenne. Enfin, bref, je ferme la parenthèse. Donc, le chef de l'État va donc devoir nommer, dans les prochains jours, un remplaçant à François Villeroy de Gallo, c'est un des beaux fromages de la République. Il va devoir également pourvoir au remplacement du vice-président du Conseil d'État, et on parle déjà d'un proche d'Emmanuel Macron qui pourrait être nommé. Il va devoir aussi choisir un remplaçant à Jacques Lang, à la tête de l'Institut du monde arabe. Souvenez-vous que le nom de Le Drian, proche d'Emmanuel Macron, avait été cité. Et puis, bien sûr, Madame Montchalin, qui va être à la Cour des comptes. Ce qui fait dire quand même à beaucoup, et pas seulement aux opposants d'Emmanuel Macron, que c'est un peu gros quand même, ce verrouillage des postes clés alors que le pouvoir macroniste va s'éteindre. Est-ce qu'on est en train de mettre en place une digue anti-RN, hein, des gens qui pourraient dire non au RN, notamment au Conseil d'État? C'est important parce qu'il y a beaucoup de... dans le programme du RN, des propositions qui vont se heurter sans doute au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Qui est dirigé par qui, le Conseil constitutionnel? Par approche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand.
C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Je vais pas parler de tous les postes, mais en tout cas pour Madame Montchalin, sa nomination à la Cour des comptes, je n'ai rien contre elle. Donc ce que je vais dire n'est pas contre une personne.
Non, c'est
je
pas personnalisé.
Voilà, ce n'est pas personnalisé. Je ne la connais pas, je la connaîtrai jamais. Voilà, on n'a aucun lien. Mais c'est scandaleux. Pourquoi? Et c'est très grave même. D'un point de vue légal, il peut le faire, mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est souhaitable. Déjà, on va fragiliser la Cour des comptes. Puisque la Cour des comptes, la valeur de la parole de la Cour des comptes, c'est notre confiance. Il faut que les médias, les politiques et nous-mêmes, on accorde notre confiance à la Cour des comptes. Là, on va nommer quelqu'un qui va juger, parce qu'on juge ce qui a été fait avant, donc elle va juger la pertinence de ce qu'elle-même a fait. Voilà. Donc moi, par exemple, on va dire, on va faire un comité pour juger les grandes gueules et la pertinence des grandes gueules. Tiens, quelqu'un de neutre. Fatima Hidbounoua, et je vais être là, je vais dire, écoutez, les grandes gueules, cette émission est minable, sauf peut-être Fatima Hidbounoua. Elle était très bien. Non, mais vous voyez, il y a un côté un peu, on ne peut pas être jugé parti. Donc je suis complètement du côté de l'opposition, toutes les oppositions. Je comprends leur peur. Et en plus, combien d'années? J'ai vu en me renseignant que c'était inamovible. Elle va rester, elle est jeune, elle va rester des années comme ça.
Elle peut rester jusqu'au bout, jusqu'à 68 ans.
Jusqu'à
elle
la
en a 40, donc ça fait 28
dire,
ans.
Regardez, avant, on disait les populistes, quand on disait la politique des coquins et des copains, et puis ils sont tous en train de se placer. Oui, mais ils sont en train d'illustrer tout ce qu'on déteste en politique. Je place les copains, je ne fais pas attention. On parle de la crise de la confiance. Vous croyez qu'on va restaurer la confiance en prenant des décisions comme ça?
Ça va
c'est,
plus loin.
C'est vraiment scandaleux. Ce n'est pas qu'une nomination, c'est une question de confiance et de long terme.
Ça va plus loin que le recasage des copains qui a toujours été, c'est que est-ce qu'il y a une volonté de barrer la route à l'alternance en quelque sorte en plaçant des gens qui seront opposés au prochain pouvoir en place.
On peut le résumer d'une formule: recasage et verrouillage sont les deux mamelles du macronisme finissant. Et le président, quand il sera plus chef de l'État, ce qui va venir très très vite, et on descend pas d'une marche, hein, il suffit de constater la vie des anciens chefs de l'État en France, on descend de tout un escalier.
Il
pourra contacter tous ces grands notables, toutes ces institutions, et on lui répondra en chantant « Viens boire un petit coup à la maison ».
Je regardais à quoi sert la Banque de France, elle gère la politique monétaire, elle assure la stabilité financière, elle émet les billets aussi, elle gère les réserves de change, elle supervise les établissements de crédit. Voilà la mission qui était celle de monsieur François Hollande.
Le problème, c'est pas elle.
Monsieur sert à rien. Va continuer puisqu'il va prendre une institution philanthropique à l'âge de 67 ans et il a un objectif inspiré des Jeux Olympiques. Il veut battre le record de Jack Lang et être en poste jusqu'à 90 ans.
Antoine Dierz.
Moi, ce qui me marque, c'est cette tentation du pouvoir prolongé. Ouais, c'est-à-dire que il y a cette volonté de continuer à peser même après la défaite. On avait vu ça avec les socialistes. Hein. Le Parti socialiste faisait 2 ou 3% à la présidentielle, mais était majoritaire au Conseil constitutionnel, dans beaucoup d'instances.
Il l'est encore. Richard Ferrand vient du PS.
Ouais. Bah voilà.
Le président de l'ARCOM vient du PS.
C'est la capacité à verrouiller le pays. Et donc, dans leur esprit de bien-pensant, c'est verrouiller face au danger de l'extrême droite qui pourrait arriver. Et donc, ils pensent que c'est légitime ce qu'ils font. Mais en réalité, ce que je pense que ça va amener, c'est que ça finit par tuer le système qu'ils pensent défendre. C'est-à-dire que, puisque les Français votent pour du changement, mais que le changement est toujours empêché par des juges, par un tel qui est nommé, qui en fait décide à la place des députés, eh bien le Français, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien on dégage tout, à fuera, on fait une nouvelle république, on supprime tout, et donc finalement, je pense que ces gens-là qui imaginent faire le bien dans leur petite vision du monde préparent la fin du système tel qu'on le connaît, la fin de cette république. Si tout est verrouillé, il faudra donc changer l'intégralité du système. Et donc, après une élection de Bardella, peut-être dans un an, s'il est bloqué partout parce que tout le monde le bloque et l'empêche de changer, eh bien, on parlera après de changer toute la République.
Mais le président de la République s'était présenté devant les Français sur le thème de l'État impartial, sur le thème de la parcimonie en matière des hautes décorations. Et là c'est tout l'inverse. C'est le privilège de copinage. Les décorations, on les balance à la volée aux potes. C'est la contradiction permanente du macronisme.
5 000 à 10 000 nominations, on n'arrive pas à avoir le chiffre précis des nominations présidentielles, selon un livre. On a reçu son auteur hier, de 5 000 à 10 000. Marine Le Pen, ce matin, demande à Madame Amélie de Montchalin de se retirer. C'est-à-dire d'elle-même. De dire, je ne vais pas à la Cour des comptes. Yannick veut en discuter avec nous. Yannick qui nous appelle du Finistère. Bonjour Yannick.
Ouais,
bienvenue.
Bonjour,
un fidèle DGG Yannick commercial. Qu'en dites-vous Yannick, vous? Dites-moi.
Oh, je suis atterré. Là, pour moi, bon, il prépare la défaite actée du camp central. Ils vont faire élire Mélenchon et pas Bardella, n'en déplaise Antoine Dierz. C'est Mélenchon qui va gagner. Parce que, de toute façon, pourquoi les macronistes feraient en 2027 un choix différent de celui qu'ils ont fait en 2025? Donc le barrage républicain, le machin, la
2024, 2024.
Donc ils préparent la suite, ils préparent le bordel. Par contre, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils savent que ça va être le bordel derrière et ils vont récupérer le bébé. Le système en fait a acté qu'ils vont perdre la prochaine, mais ils sont peut-être pas résolus à attendre 5 ans. Que ça se représente. Donc ils préparent le bordel et on recase les potes. Donc Ferrand au Conseil constitutionnel, Montchalin à la Cour des comptes, Clément Beaune au commissariat à que dalle, et ainsi de suite. Donc je suis atterré. Donc et je voudrais juste dire un truc, parce qu'après on peut discuter de tout pendant des heures, mais en fait quand il y a 5 ans il y avait une candidate qui annonçait, attention hein, Macron il va cramer la caisse, on va être en déficit de malades, il est temps de faire des réformes. Elle a fait moins de 5%. En fait, on préfère les beaux parleurs, on préfère les marchands de chansons. Donc, bah, on va continuer comme ça, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, bon, bravo, quoi. Et puis, bah, dans un an, je reparle. Et puis,
oui, mais président. On peut pas à la fois prôner la République exemplaire et même le Nouveau Monde et finalement avoir ces pratiques d'un autre monde, enfin qui ont toujours existé, mais c'est l'appropriation du pouvoir. C'est-à-dire qu'on allait, grâce aux nominations, on s'approprie le pouvoir et on le garde une fois plus, une fois qu'on le perd le pouvoir. C'est-à-dire que alors, peut-être que c'est un macroniste qui succédera à Emmanuel Macron. On ne sait pas de quoi sera fait l'élection présidentielle, mais si c'est pas le cas, effectivement, ça sera quand même gênant de voir un président venu de l'opposition de gauche ou du RN ou de la droite et LR qui soit empêché par des gens qui ont été placés par Emmanuel Macron au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, à la Cour des comptes.
C'est plus grave que ça. Il y a déjà la contradiction. Effectivement, Emmanuel Macron, il avait son livre Révolution. Hein. Il était là pour faire la révolution. Mais c'est plus grave que ça. Parce que si c'était simplement un verrouillage, et tu dis oui, les autres ont fait ça, ou placer les copains. Là, on est en train de fragiliser et on va aller jusqu'à un point de rupture. On fragilise les institutions. On a parlé de la crise de la confiance. Après, on est au-delà de la crise de la confiance. On est dans la méfiance. Et si on se méfie de nos institutions, si on n'y croit plus, c'est là que le pire peut se passer. Donc, vous voyez, c'est pas simplement la nomination d'une personne ou d'une autre. C'est très grave ce qui est en train de
Yannick,
se passer.
Yannick, on va en parler avec Thomas, qui est employé commercial dans le Val d'Oise. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous en dites Thomas? Vous avez le même ras-le-bol que Yannick ou pas? Dites-moi.
Ah oui, bah, moi je suis foudrage. Alors, je vais vous dire que sincèrement, déjà dans le sujet d'hier avec l'annonce de Montchalin, Madame la Ministre, alors que ce soit une femme c'est très bien, mais ça ne peut pas être cette personne. Elle a voté, elle a participé à l'élaboration de ce budget qui est catastrophique. Et en plus on la nomme, bah forcément elle va pas dire du mal. Donc mais en fait, comme disait Fatima, je suis entièrement d'accord avec elle, la confiance c'est zéro. Comment on peut avoir confiance dans les institutions alors que le président met tous ses petits copains, parce que le macronisme c'est fini, c'est rincé, il sait que c'est la fin pour lui, et il veut placer ces gens, c'est inadmissible, c'est scandaleux. Comment on peut même, et là je suis d'accord avec les oppositions, que ce soit LFI ou le RN ou toutes les oppositions, je suis d'accord avec tout le monde, ils ont raison de s'opposer à ça. Bah oui, parce que comment on peut accepter ça? C'est inadmissible. Et je veux bien qu'on me dise, oui, il faut nommer les gens, mais ce n'est pas possible de faire comme ça. C'est un scandale. Ah,
elle pourrait renoncer. Elle pourrait dire elle-même, effectivement, je vois que ma nomination n'est pas serein. Ça pose des questions déontologie, puisque elle va devoir juger le budget qu'elle a elle-même concocté. Peut-être qu'elle-même, elle pourrait dire, écoutez, j'y vais pas, quoi. Voilà, bah, je vois bien que les conditions sont pas réunies. Alors là, elle sortira par le haut.
J'ai regardé les questions au gouvernement hier à l'Assemblée. Il y a justement un député qui lui a dit la même chose. Si vous avez de la décence, du respect pour les Français, ne n'acceptez pas. Mais elle n'a même pas répondu. C'est la porte-parole qui a été, parce qu'elle n'avait même pas le courage de répondre. Donc vous voyez, c'est bien sûr qu'elle ne va pas renoncer. Pour elle, c'est une place en or. Donc encore une fois, ça aurait été très bien que ce soit une femme. Tant mieux, mais pas cette dame. Pas cette personne. Il faudrait faire comme on disait, peut-être un vote par les députés à l'Assemblée, etc. Trouver un autre moyen, mais pas que ce soit le président, parce que ce n'est pas normal. Moi, je suis foudrage. Franchement, je suis foudrage.
Bon, tout le monde dit c'est formidable parce que c'est une femme, ça, c'est vraiment le gadget. Et ça pourrait aussi être un transsexuel.
Non, pas du tout. Moi, je vois tout à fait. Être femme n'est pas une qualité en soi. C'est pas une compétence en soi, mais on peut saluer le fait qu'une vieille institution qui a toujours été dirigée par des hommes soit enfin dirigée par une femme.
Depuis Napoléon.
Oui, depuis Napoléon.
Depuis l'empereur. Hein.
C'est Napoléon qui avait mis ça en place à Cour des comptes, qui est une bonne idée d'avoir une instance, mais une instance qui doit être un contre-pouvoir. Nommer une amie, c'est pas.
Je sais pas si ça doit être un contre-pouvoir, c'est un conseiller du pouvoir.
C'est un contre-pouvoir, puisqu'il n'y a pas de coercitif.
Voilà. Ouais. Il rend dommage, des rapports. D'ailleurs. Et donc, en fait.
Je rappelle qu'il y a la Cour des comptes nationales et les chambres des comptes régionales. Les cours des comptes régionales.
On doit dépenser 220 millions pour ça.
Mais c'est pour ça que je te dis, ça peut vraiment les fragiliser.
220 millions.
Ça peut les fragiliser parce que l'essentiel de leur pouvoir, c'est un pouvoir symbolique qui repose sur la confiance. Donc vraiment, ça peut fragiliser. Ça peut remettre en question l'existence même de cette Cour des comptes.
Il faut saluer Nicolas Sarkozy
et à Thomas.
Parce qu'on dit que tout le monde avait nommé des copains. C'est vrai, par exemple, Jacques Chirac avait nommé Philippe Séguin à la Cour des comptes. Mitterrand avait nommé Pierre Joxe. Bon. Mais Nicolas Sarkozy avait voulu nommer justement une personne qui n'était pas dans son camp. Il avait nommé Didier Migaud, le socialiste, à la Cour des comptes, justement parce qu'il voulait faire un geste d'ouverture. Je trouve que c'était plutôt intelligent.
Tout comme il avait instauré, sauf erreur de ma part, la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale attribuée à l'opposition.
Exactement. C'est pour ça que c'est Éric Coquerel qui est le président de la commission des finances.
Qui est-ce qui avait nommé Pierre Mazeaud à la tête de la Cour des comptes? Il faudrait que je retrouve.
Ah, ça remonte. Le Conseil constitutionnel.
Oui, c'est le Conseil constitutionnel. Qui est-ce qui avait nommé Mazeaud?
C'est Chirac. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils peuvent se réunir après un gueuleton et dire. Non, contrairement aux chiffres et aux lettres, le compte n'est pas
bon. Non, mais Chirac avait nommé Jean-Louis Debré. Oui. Et à l'époque, il y avait une polémique, parce qu'effectivement, Jean-Louis Debré avait été récompensé de sa fidélité absolue à Jacques Chirac. Mais les nominations comme ça, de fin de régime, où tu places ses copains, c'est vrai que c'est
alors, on a posé la question.
Au moins l'effort d'avoir des gens de haut niveau. Jean-Louis Debré, c'est pas le même niveau que Montchalin, tu vois.
Alors, nomination à gogo, est-ce que le président de la République verrouille les institutions? Oui ou non. Je pense qu'on va être en oui. Est-ce qu'on va taper les 90%? Oui, on est à 94,8%. L'affaire Epstein, où en est-on? Cette fois-ci, maintenant, c'est un fonctionnaire du Quai d'Orsay qui se retrouve pris dans les filets de l'affaire Epstein. Le Quai d'Orsay touché, on va en discuter au 32-16 avec vous.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules avec aujourd'hui Fatima Idouna, la prof de français, avec Antoine Dirce, consultant juridique, avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise. Et dans les GG, on va s'intéresser de nouveau, parce que tous les jours il y a des révélations, on en apprend un peu plus aux affaires Epstein. Et dans l'histoire, là, c'est un diplomate, un fonctionnaire du Quai d'Orsay, Fabrice Edan, qui apparaît dans les documents publiés par la justice américaine. À un point tel, cette histoire, que c'est maintenant le ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Noël Barrot lui-même, qui prend le dossier en main.
Oui, qui prend le dossier en main, mais enfin, on se pose la question, est-ce que la maison est tenue? Parce que Monsieur Barrot, ce matin, s'est dit atterré, indigné d'apprendre tout ça, mais en même temps, dans l'interview, il dit, mais il y aura peut-être d'autres diplomates cités. Donc, en fait, il ne le sait pas. Donc, est-ce que la maison France est tenue? Est-ce que le Quai d'Orsay est tenu? C'est quand même très inquiétant, parce que quand on voit le cas de ce monsieur aidant, qui est une personnalité connue du ministère des Affaires étrangères, il y est en poste depuis 25 ans. Alors là, il était en disponibilité très dans une société privée, Engie. Enfin bon, il était toujours rattaché au ministère des Affaires étrangères. Il a eu de longs contacts avec Epstein, puisque son nom apparaît dans près de 200 fichiers mis en ligne par l'administration Trump. Alors, c'est pas lié aux affaires pédocriminelles qui touchent Epstein, quoique, on apprend quand même que ce monsieur aidant faisait l'objet en 2013 d'une enquête du FBI pour consultation d'images pédopornographiques. Donc il y a quand même un lien avec les pratiques d'Epstein. Mais c'est surtout sur des questions d'échanges diplomatiques que les deux hommes se côtoyaient. Visiblement, l'homme en question aurait donné des désinfos diplomatiques à Epstein, parce que Epstein s'intéressait à beaucoup de choses, notamment au Moyen-Orient, etc. Et ça a duré très longtemps. Y a-t-il eu, en échange de ces informations, des cadeaux? Semble-t-il, et Fabrice Edan a profité du logement parisien d'Epstein, on parle de voyage, etc. Bref, l'enquête ne fait que commencer. D'ailleurs, Jean-Noël Barrot souhaite que la justice s'en saisisse.
Fatima.
Vous savez, on ne parle pas du dérapage individuel d'un homme, hein. On parle d'un système. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je ne vais pas, parce que souvent, on va avoir des noms comme ça. Ce sera des petits poissons. On aura des petits poissons du marécage. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gros poissons. Et c'est ce système-là. On commence. Et on va bien s'amuser, là. Parce que quand même, le Quai d'Orsay, qui en 2013, a le FBI qui leur dit que le diplomate consulte des fichiers pédocriminels. Quand cet homme revient en France, il a rien du tout. Mmh. Ils ont étouffé l'affaire, ils ont recasé le copain. Mmh. Donc, on va pas maintenant faire comme si on s'étonnait et on découvrait. Ça, c'est la première chose.
La question, est-ce que la maison est tenue?
Deuxième chose, peut-être que cette affaire Epstein, c'est une chance pour la France. Ouais, c'est une chance. C'est la chance d'affirmer très, 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 très fort. La France n'est plus pédolande, et je ne dis pas n'est pas, n'est plus pédolande. L'orgie est finie, la fête est finie. Pourquoi je dis n'est plus? Parce que quand même, lorsque vous regardez, quand vous commencez à regarder, je parlais la dernière fois de cette tribune qui était clairement dans les années 80, mmh. qui était clairement non pas une mollesse, mais presque la promotion de la pédophilie, parce qu'on parlait encore pédophilie à l'époque. Donc il y avait ce genre de tribune-là. Il y avait des personnes qui disaient quand même, des écrivains, le Prix Médicis, Tommy Duvert, les gamins aiment faire l'amour comme on se mouche. Il y avait déjà ça. Quand on commence à s'intéresser à cette affaire Epstein, ce qu'on voit, et je vais mettre en parallèle avec ce qui s'est passé là au Sénégal, vous avez suivi, avec ce Français aussi qu'on appelait, c'est Babtou, c'est ça son surnom, c'est quoi, Pierre Babtou. Donc, il demandait à distance à des personnes, des Sénégalais sur place, de former des jeunes enfants de 11 ans, de leur apprendre. Et il demandait aussi qu'ils aient le sida, donc on leur donnait le sida. Là, c'est digne de tous les complots, mais pour le coup, c'est sourcé, vous pouvez aller chercher. Comme ça, ces enfants-là ne peuvent plus revenir en arrière, si vous voulez. Donc on les formait de la même manière. Quand Jacques Lang demande, dans des correspondances, une école au Maroc, d'ouvrir une école pour former des jeunes personnes, on peut se poser des questions. Donc je me réjouis, parce qu'on va pouvoir se poser des questions. Maintenant.
Et surtout, il faut donner des réponses, parce que les questions et les rumeurs,
exactement,
il y en a beaucoup.
Le problème, c'est pas simplement parler. On a dit souvent aux victimes, parler. Le problème, c'est d'être entendu, d'être écouté, qu'il y a des suites. Le problème, c'est pas simplement l'impunité, mais c'est aussi l'omerta. Donc moi, je demande qu'on protège les lanceurs d'alerte, qu'on protège les enfants, qu'on ne protège pas les pédocriminels et qu'on ne parle pas après. Parce que tous ceux qui viennent, ah mais oui, et qui commencent à parler quand c'est déjà, la fête est finie, la personne, elle est déjà arrêtée, on n'en peut plus de ça pour dire tout le monde
savait. C'est un autre aspect de l'affaire, là. Il y a cette dimension-là. Moi, je vois l'aspect diplomatique. Ça résonne forcément avec la situation de Peter Mandelson, diplomate britannique, qui met en difficulté le gouvernement Starmer. Et donc, y a-t-il un deuxième volet de l'affaire Epstein avec des relais au sein des chancelleries européennes, avec des informations qui auraient été échangées? Et voilà, c'est le côté pédocriminalité est dramatique, mais si en plus on découvre un volet d'influence de Epstein
et d'un membre du Quai d'Orsay qui donne des infos,
et voilà, et donc a priori
un financier américain
donner des infos, tu disais en est-ce que la maison est tenue
et lesquelles,
le MAE, lesquelles, on sait que c'est pas tenu, ça fait beaucoup de sujets où on sait que
le MAE, c'est le ministère des Affaires étrangères.
Le ministère des Affaires étrangères. On sait que les questions de souveraineté sont pas bien traitées au sein du MAE. Et donc, moi, j'espère comme toi qu'on lève le voile sur le côté pédocriminalité, mais qu'on creuse le sujet. Est-ce que nos chancelleries n'ont pas été infiltrées? Est-ce qu'elles n'ont pas servi à un autre agenda que l'intérêt national français?
Emmanuel Macron a bien été imprudent il y a deux jours, je crois, en disant que c'était surtout une affaire américaine.
N'importe quoi.
Il a dit ça publiquement. Je pense qu'il était assez imprudent parce que depuis, il y a beaucoup d'histoires françaises qui sortent quand même.
Oui. Alors quand on décrypte d'ailleurs sa dimension d'acteur de théâtre, on voit qu'il balance la patate chaude.
Oui, c'est ça.
Mais pour éviter qu'elle soit son
acteur. Peut-être qu'on comprend mieux pourquoi maintenant avec la révélation sur ce diplomate français.
Oui. C'est que le début. Alors néanmoins, moi je trouve que au-delà du fait de rappeler que Epstein était un méga super gros magouilleur, que c'est une affaire immorale et d'envergure clairement internationale, cet individu est mort. On saura jamais trop pourquoi et comment. Mais je me demande quand même, je le dis aux auditeurs, si on monte pas tout ça en épingle maintenant, parce que pendant qu'on parle de ça, classiquement, on parle pas d'autre chose, on parle pas des vrais problèmes, on parle pas de l'échec du pouvoir, etc., etc.
Oh, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que on parle pas des vrais problèmes, c'est pas un vrai problème.
Pas l'autre.
Là, la pédocriminalité en France, c'est un vrai problème. Alors, rien que cette semaine, oui,
ça ne concerne pas le quotidien et la vie normale des Français.
Si, la vie normale des enfants, parce que par exemple, les 10 hommes, là, avec un enfant de 5 ans, avec la soumission, soumission chimique. La question de la soumission chimique, elle est là. Quand on apprend qu'un prédateur de 4, avec 89 victimes, 55 ans, tranquillou, là, on est en train de chercher Jacques Leveugle. On est en train de faire un appel à témoins pour savoir. Mmh. Là aussi, ça concerne les Français. Joël Le Scornec, n'importe qui aurait pu.
Médecin.
Médecin. Ça veut dire que sous anesthésiste.
Qui a été protégé.
Pareil,
qui
a été protégé. Ça veut dire que pendant longtemps, on avait des affaires de pédocriminalité et on protégeait les gens. La question, c'est pas simplement les victimes endormies, les victimes abusées, les victimes sous soumission chimique qui n'ont pas pu témoigner, les victimes qui parlent et qu'on n'écoute pas, les victimes qui étaient jeunes, qui ont fait qui oublient aussi. Le gros problème, c'est que quand les gens parlent, on les entend pas. Quand il y a des lanceurs d'alerte, ils disparaissent. Quand une personne va parler, elle meurt. Vous voyez bien qu'on a un scandale incommensurable et que ce n'est pas le dérapage d'un homme. On a un système. Et que avant, quand on parlait du système, on nous disait, oh, mais tu es populiste. Oh, tu es, c'est quoi le gros mot?
Complotiste.
Et que le complotisme, ça a été un gros scotch qu'on a mis sur les gens, sur la bouche des gens révoltés. Et les gens qui sont révoltés, ce n'est pas des gens qui sont colériques, ce n'est pas des gens qui sont fous, ce n'est pas des gens qui cherchent à faire diversion, ce sont des gens qui sont informés. Quelqu'un qui est calme, qui est informé et qui voit, comme on a fait à l'hôpital, qu'on a violé des enfants, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'avant, tant qu'on n'est pas au courant, on peut être calme parce qu'on n'y croit pas. Ça veut dire on ne se dit pas on va violer un bébé, parce que quand tu vois un bébé, tu veux le protéger. Tu te dis pas que quelqu'un va prendre son réflexe de succion pour faire autre chose. Et à partir du moment où tu le sais, tu ne peux plus te l'enlever de la tête. Et à partir du moment où tu le sais, le devoir d'un être humain, c'est de le protéger. Donc ce n'est pas faire diversion. Par contre, ils vont faire diversion. Einstein, avec tous les mails qu'on a, on nous fait de la fausse transparence, on va nous donner des faux poissons, on va nous enfouir là-dessus.
Par exemple, ça, je suis d'accord. Je voulais ajouter, on met en cause Franck Ribéry.
Oui, là, c'est
ça, c'est les faux poissons.
Je trouve ça désolant, parce que pourquoi
petit
on l'attaque
poisson.
On attaque Franck Ribéry,
son nom est
parce qu'on a son succès,
fois,
parce qu'il est issu d'un milieu modeste à Boulogne-sur-Mer. Moi, ça me choque.
Oui, ça, je suis d'accord. Les gros, je veux les gros.
Je suis d'accord avec Antoine, il y a peut-être quand même un volet diplomatique à creuser, dans tous les cas, parce qu'on voit aussi que Jeffrey Epstein, il était en relation avec des hommes d'affaires russes, proches du Kremlin aussi, dans cette histoire. Donc, il y a le volet pédocriminel. Et puis il y a le volet financier, diplomatique. Est-ce qu'il y a eu des échanges d'informations, d'influence? Est-ce qu'il y a eu des achats qui ont permis des transactions parce que tu étais au courant de telle ou telle chose via des canaux diplomatiques? Qui aurait pu peut-être d'ailleurs, qui ont peut-être pu influer sur les histoires françaises, parce que les relations entre Jeffrey Epstein et le Kremlin et des hommes d'affaires proches du Kremlin, ça a duré 8 ans aussi, tu vois. Donc tous ces volets, toutes ces pistes mises bout à bout, faut quand même qu'on doit s'interroger s'il y a un moment, nous-mêmes, notre souveraineté ou nos intérêts n'ont pas été touchés aussi. Olivier va en discuter avec nous, il est dans l'Hérault. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous en dites, Olivier?
Ben moi, j'en dis que la France a de quoi un petit peu trembler pour certains de ses diplomates et même pour beaucoup de personnes, je pense. Parce que ce qu'il faut se rappeler quand même, outre le fait que c'était un pédocriminel suprémaciste, qu'on voit les échanges de mails qu'il a pu avoir avec certaines personnes, il était en contact, Epstein, avec la CIA, avec le Mossad. Il avait donc des contacts avec des services de renseignement dans le monde entier. Et quand on voit l'affaire Jacques Lande, comment ça a été étouffé, parce que bon, il faut quand même se rappeler que sa fille a touché 5 millions d'héritages d'Epstein. Enfin, faut pas l'oublier. Il n'y a pas eu d'enquête là-dessus. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est ce diplomate, mais c'est l'iceberg, en fait, c'est le dessus de l'iceberg. Je pense que si on gratte au fond, parce que faut se rappeler qu'il n'y a qu'une partie de la boîte mail qui a été dévoilée,
mais oui.
Et c'était la boîte mail de vacances. Il y a 20 boîtes mail en tout qui n'ont pas été dévoilées. Donc si jamais vraiment l'État américain souhaitait tout divulguer, ce qui serait extrêmement bien, je pense, il y a certaines élites de chez nous qui pourraient trembler, qui ne le veulent surtout pas. Et d'ailleurs, vous voyez un petit peu comment les médias traditionnels, parce que vous avez le courage de parler, mais qu'on prend 20 minutes, qui font un débat sur Epstein, enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi.
C'est
du détournement d'informations pour essayer de dire qu'il y a du Kremlin, enfin bref, c'est n'importe quoi. Je pense que le débat de fond, c'était un fou furieux, criminel, et... il a eu des contacts tellement de personnes, il a mis tellement de personnes
dans sa poche. Fou furieux, mais très malin, parce que d'ailleurs sa fortune, il l'a fait comme ça, grâce au relationnel. Il réussissait quand même à séduire des hommes puissants et riches. Oui. Il en devenait le conseiller, parce qu'il avait un talent, c'était un très bon mathématicien, et visiblement, il calculait vite. Et bien, c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer au départ. Oui. Et il a quand même réussi à gravir les échelons grâce à ce relationnel. C'est pour ça aussi qu'il y a tous ces noms, parce que ce type-là passait son temps. À rencontrer des gens et à faire de l'entre-gens.
Très malin. Et comme Robert Maxwell, très malhonnête.
Oui, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Il y a eu des escroqueries aussi, oui, bien sûr.
L'un n'empêche pas l'autre.
À suivre, hein, Olivier, c'est vrai qu'on a tous envie, on a soif de vérité, mais il y a tellement de documents qui sont à analyser.
Et ça attention aussi, parce que le problème, c'est que...
Mais ça, c'est fait exprès aussi, c'est la transparence qui noie.
Oui, mais le problème, la transparence, et puis aussi, ça alimente le complotisme. Parce que, après, on peut partir sur des délires, etc. Donc, il faut rester factuel. Il y a des noms, il faut voir précisément pourquoi ces noms sont sur ces fichiers. Il y a des noms, parfois, qui sont cités, mais qui n'ont rien à voir, parce qu'ils s'intéressaient à plein de choses, mais c'est pas pour ça que les types sont impliqués dans ces affaires. Oui, puis... Voilà, entre Jack Lang et Franck Ribéry, c'est pas la même affaire. Et entre Jack Lang et ce diplomate non plus, donc il faut quand même rester très prudent.
Eh bien, Olivier, c'est pour ça que je dis que c'est une chance.
Au bout des enquêtes.
C'est aussi pour ça que c'est une chance pour le journalisme et le métier de journaliste.
Oui, oui,
c'est qu'à la place de faire une enquête sur 20 minutes, là, est-ce qu'on prononce Einstein ou Einstein? Comme disait l'auditeur, on fait une enquête sur, OK, les fake news, ces photos-là qui circulent, est-ce que c'est une vraie photo? Parce que maintenant, c'est dur aussi, il y a des photos avec les deepfakes, des photos qui sont indissociables.
Il y a des fausses vidéos qui tournent beaucoup
sur les réseaux sociaux. Là, c'est un vrai travail de journaliste pour dire, voilà, cette photo, non, ce n'est pas une vraie, je vous le prouve, je vous le montre, voilà.
Mais par exemple, quand même, sur cette histoire, pour revenir à ce que disait Fatima, il faut savoir pourquoi, quand le FBI enquête en 2013 sur la consultation d'images pédopornographiques par ce diplomate, pourquoi il est exfiltré et finalement, ça s'arrête là et protégé.
Mais de la même manière, quand Luc Ferry...
Il a voulu étouffer l'affaire, sans doute, à ce moment-là.
Et quand Luc Ferry, il y a quelques années, dans le Grand Journal, en 2011, parlait d'un ministre, et les gens se sont dit, c'est peut-être Jack Lang, il n'a jamais donné le nom. Mais ce qui m'a choqué, moi, à cette époque-là, c'est qu'il a dit oui, il y a des choses organisées au Maroc. Un ministre, un ex-ministre a été exfiltré parce qu'il y avait une activité sexuelle avec des jeunes garçons. Oui. Et là, il regarde tout le monde, il dit oui, il y a des rumeurs. Tout le monde a l'air de savoir. Nous, on veut savoir aussi. Si tout le monde a l'air de savoir, c'est comme DSK, quand il y a eu l'histoire du viol.
Sofitel,
du Sofitel. Tout le monde a dit, mais on sait, avait une réputation. Tout le monde savait. Pourquoi tout le monde parlait.
Tu passais à autre chose, de dragueur. Là, tu passais à autre chose. Tu passais à une agression sexuelle. C'était différent.
Non, mais il y en a d'autres qui ont dit, il était limite, on faisait attention.
Oui, mais c'est une chose. Participer à des partouzes avec des adultes consentants et agresser sexuellement une femme de ménage. C'est pas la même chose.
Non, mais je veux dire, le côté.
C'est factuel.
Non, mais le côté.
Il est 11h20.
Tout le monde savait, mais personne ne parle.
Merci de nous éclairer par tes nuances, cher Olivier.
Parce qu'à l'époque, on sait de la presse en disant, vous saviez. Non.
Merci, Olivier, d'avoir été avec nous.
Avait effectivement des mœurs débridées, on va dire, mais il ne savait pas que c'était un violeur. Voilà.
C'est ça qui m'énerve.
11h20, dans un instant, on va regarder les chiffres du chômage qui montent. Et le chômage des seniors et le chômage des jeunes qui montent. Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Si vous voulez de la discussion, si vous voulez du débat, comme Olivier il y a quelques minutes, vous décrochez, vous faites le 32-16 et vous venez avec les GG, avec les grandes gueules, avec Antoine Diers, avec Emmanuel Devilliers, avec Fatima Hidbounoin. On va faire un petit focus, là, on va regarder un peu les chiffres de l'emploi avec vous au 32-16 justement. On est quasiment à 8%, on est à 7,9% pour le quatrième trimestre 2025, c'est-à-dire pour l'année 2025, c'est au plus haut depuis 2021. Et quand on regarde en détail, en fait, c'est toujours les deux mêmes catégories qui sont les plus touchées, c'est-à-dire les jeunes et les seniors, alors que le président de la République, le chômage avait baissé pendant longtemps, le président de la République voulait qu'on aille vers le plein emploi.
Le chef de l'État s'était fixé comme objectif de ramener le taux de chômage à 5% à la fin de son second mandat. Le pari sera perdu, puisque, au vu des chiffres de l'INSEE publiés hier, on est à 7,9%, c'est une hausse de 0,6 sur un an, et les perspectives ne nous emmènent pas vers les 5%. En fait, c'est la malédiction des chefs de l'État qui font des paris sur l'emploi et qui le perdent à chaque fois. Vous vous souvenez de François Hollande? C'était devenu une plaisanterie. François Hollande, chaque année, pariait sur l'inversion de la courbe de chômage. Et il venait devant les Français en disant « ça va s'inverser ». Bon, faut reconnaître que ça s'est inversé, mais à la toute fin de son quinquennat, et ça l'a pas empêché d'être obligé de renoncer à se présenter. Ben Macron, c'est la même chose. Le plein emploi, ben l'emploi n'y sera pas. Alors pourquoi ? Parce que les jeunes restent les plus fragiles sur le marché de l'emploi. Il y avait notamment une bonne mesure de Macron qui marchait bien, c'était l'apprentissage subventionné. On aidait les entreprises à prendre des apprentis. Comme on n'a plus d'argent, on a réduit la voilure, et donc il y a beaucoup moins de jeunes en apprentissage. Et puis les seniors aussi, le chômage des seniors. Alors pourquoi ? Ben parce qu'on a suspendu la réforme des retraites, et donc les entreprises n'ont plus besoin de garder les seniors un peu plus longtemps. Et oui, parce que quand on allonge la durée légale pour partir à la retraite, en général, ça fait diminuer le chômage des seniors. C'est ce qui se passe dans tous les pays. Bref, tout ça est le résultat aussi de choix.
Qu'est-ce que vous en dites, Emmanuel ?
Ben, fondamentalement, ce sont les coûts du travail en France qui font que les problématiques d'embauche sont bloquées, parce que ça coûte tellement cher d'avoir un salarié, que l'on soit dans une TPE, une PME ou même une entreprise de plus grande taille, c'est tellement onéreux avec les charges et en coût annuel qu'il faut une productivité qui fait qu'on n'a pas le dynamisme et le développement de chiffre d'affaires pour embaucher. Non, là où les politiques sont les meilleurs, c'est quand ils parlent d'un air entendu de ralentissement de la hausse.
Oui, mais vous reconnaissez que le discours, il n'y a plus de discours sur le chômage et l'emploi. On parle de tout. Là, on va parler de la fin de vie, ça va être le grand débat. On va parler la proportionnelle. Mais alors, Sébastien Lecornu, il dit plus, je vais tout faire pour faire diminuer le chômage, etc. C'est fou, on a vraiment changé de discours.
C'est une espèce de fatalité. La question du chômage, le chômage est structurel, est structurellement géré dans notre pays à coup d'argent public. Et on est français, donc on imagine que, il y a du chômage, c'est normal, quoi, le chômage. Alors qu'en fait, autour de nous, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, République tchèque, etc., des taux de chômage de l'ordre de 3-4%, quoi. Le plein emploi, ce qu'on appelle le chômage frictionnel, voilà, c'est un chômage juste entre deux emplois. Tu as parlé du coût du travail, c'est effectivement un point, mais c'est aussi et surtout la flexibilité. C'est-à-dire que en France, il y a tellement de difficultés à embaucher ou à licencier que les gens n'embauchent plus. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est dans les pays que j'ai cités, où se trouvent les viviers d'emploi ? Ils se trouvent dans les industries. C'est l'industrie qui emploie massivement en Allemagne,
etc. Les services.
Et nous, on n'a plus d'industrie en France. Donc forcément qu'on n'a plus d'emploi.
Et il y a aussi la croissance, parce qu'avec 0,9 de croissance, on ne peut pas faire 10 000 chômage.
Mais tout est lié. Tu auras de la croissance quand tu auras de l'emploi. Et enfin, le gros sujet des formations en France. On forme pour avoir un diplôme. Ah bon, je croyais qu'on formait pour avoir un emploi. Ah non, surtout pas. Non, il faut pas que le gamin il réfléchisse à l'emploi. Non, il faut qu'il réfléchisse à son développement personnel. Et puis il va faire un master de sociaux, ce sera très bien. Et donc tant qu'on n'aura pas résolu les fondamentaux du problème français, où on croit qu'on se forme pour se faire plaisir, où on ne simplifie pas l'accès au marché du travail, on restera dans cette situation. Et on a le sentiment que personne ne veut en sortir. Il y a quelques jours ou 15 jours, le MEDEF faisait une proposition d'un CDI un peu allégé pour les jeunes. Parce que l'enjeu, c'est de permettre l'accès aux jeunes. Tout le monde hurle en disant « Quoi, on va faire un contrat avec un rabais social pour les jeunes ?» Mais arrêtez avec votre vocation sociale. Ils n'ont pas d'emploi. Ils n'arrivent pas à entrer sur le marché du travail à cause du social.
Le point clé, c'est de faire le premier pas dans l'entreprise pour un jeune. Même si c'est bénévole, et c'est souvent bénévole dans le cadre de stage, parce qu'après,
j'ai parlé de rabais social, toi, t'es bénévole, carrément.
Je suis pour dédommager les stagiaires, mais parfois c'est jusqu'au bénévolat. Ouais. Et une fois que le jeune est dans l'entreprise, s'il est intéressé, il y a des affinités qui se créent avec
les équipes. Et puis s'il est bon, s'il travaille.
Généralement, sauf s'il est vraiment mauvais, on le garde.
Bah oui.
Je pense que pendant longtemps, le problème, c'est qu'on a fait une politique du slogan et des chiffres. C'est-à-dire le slogan, vous voyez, plein emploi, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on peut, et les chiffres aussi, parce qu'on peut artificiellement faire croire que ça va mieux, par exemple, avec la problématique des travailleurs pauvres, par exemple. Ou des gens, il y a des gens qui ne gagnent pas leur vie, ils travaillent dur, mais ils ne peuvent pas vivre dignement. Ça veut dire que la question de l'emploi, c'est aussi la question de la possibilité, du pouvoir d'achat, la possibilité de vivre de son emploi. C'est vraiment le penser en globalité. L'autre chose, il y a des pays où justement, les politiques qui ne respectent pas leurs promesses sont dégagés.
Ils sont réélus.
Non, mais ça veut dire que si tu t'engages à faire quelque chose, on considère que c'est un mensonge politique et tu dois te justifier. Et bien moi, j'aimerais bien que ça arrive en France.
On a un exemple qui nous vient d'Irlande. C'est Brian, comme vous voulez, qui nous appelle de Dublin. Bonjour,
in
Brian.
Kitchen. In the kitchen.
Oui. Bonjour.
Il n'a jamais fait.
Bienvenue, français installé à Dublin, franco-irlandais. Dites-moi,
ouais,
bon,
j'espère, Brian. J'espère un jour. J'ai acheté ma maison, donc oui, je pense que ça fait 11 ans maintenant que je suis sur place.
D'accord. Et alors, justement, vous vouliez prendre l'exemple irlandais. Pour le chômage. Expliquez-nous, dites-moi.
Alors, en fait, si vous voulez, moi, j'ai perdu mon travail en 2023. C'est un licenciement économique.
En France ?
Et du coup, en Irlande.
Vous étiez déjà en Irlande, ok, pardon.
Exactement, voilà. Et en fait, si vous voulez, quand moi, j'ai perdu mon travail, c'est la première fois de ma vie que j'étais au chômage. Et donc jamais été au chômage en France. Et en fait, si vous voulez, je me suis retrouvé à devoir aller chercher mon allocation. C'est une allocation qui est versée, on va dire, hebdomadaire, donc toutes les semaines. Et c'est une allocation à venir récupérer au bureau de poste de Dublin, en fait. Donc c'est pas France Travail. Je connais pas l'équivalent ici. Je crois que c'est Job Seeker Allowance. C'est le nom du service. Et en fait, si vous voulez, ça nous force, entre guillemets, c'est pas moi. Dans le même temps, en fait, j'ai une expérience d'une personne proche de moi qui avait perdu son travail en France. Et qui, en fait, pouvait, en fait, récupérer, je crois que c'est mensuel, où elle devait juste répondre à 4 questions sur l'application, et paf, l'allocation était versée directement sur le compte en banque. Moi, en fait, j'ai dû me déplacer pendant l'équivalent de 2 mois, toutes les semaines au bureau de poste pour récupérer mon allocation. Et si, en fait, c'est sur la semaine entière, on pouvait aller la récupérer. Et si on passait ce délai, on perdait notre allocation sur la semaine, et au bout de deux séquences à la suite où on n'allait pas récupérer notre allocation, on était radié.
C'est très intéressant parce que moi je pense à tous les chômeurs qui sont en vacances et qui disent j'ai cherché, je peux moi aussi j'ai le droit de prendre un peu de vacances.
Tu reçois ton virement quoi.
Les chômeurs ont droit à des périodes de vacances.
Oui, mais tu dois les déclarer normalement. Oui, parce que personne ne déclare. Mais là en Irlande, si t'es parti à l'étranger en vacances, tu viens pas retirer ton allocation et elle est perdue. Hein. C'est ça que
exactement,
j'ai
compris deux fois. Il y a toujours la possibilité de pouvoir avertir le bureau de poste, mais directement l'équivalent de Pôle emploi, si vous voulez. On peut les avertir en disant, voilà, on va partir 2 semaines, où on doit prouver. Moi, j'ai ça, en fait, parce que moi, j'ai perdu mon travail, j'ai voulu repartir en France pour me ressourcer un tout petit peu pendant 2 semaines. J'ai dû leur donner mes billets d'avion pour leur montrer que je partais, que je revenais, et les dates étaient notées. Et en fait, l'allocation était suspendue, et du coup, j'ai pu récupérer en une fois 3 semaines d'allocation.
Ok, donc il y a de la
compétence. Du coup, ça pousse à retrouver un job plus vite, quoi, en fait, Brian, c'est ça?
Ça, et en plus, c'est l'allocation est versée que sur 9 mois, et c'est une allocation universelle, à 238 € à la semaine.
D'accord. Et vous avez retrouvé du travail au bout de combien de temps?
Hop, à Dublin, j'ai retrouvé, en fait, si vous voulez, je suis pendant 2 mois, mais oui, j'ai mis au bout de mes 2 semaines après avoir perdu mon travail, j'avais déjà 3 entretiens dans 3 entreprises différentes. J'ai repris, j'ai repris du boulot assez rapidement, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Sur place, donc c'est vrai que là-dessus, ça c'était pas vraiment un problème.
Il faut savoir que le taux de chômage en Irlande est souvent en dessous de la moyenne européenne.
C'est le chômage frictionnel entre deux emplois.
Brian, il y a quelque chose que les auditeurs savent pas trop. Attention. C'est qu'Alain Marchal est spécialiste de rock. Alors si je te dis, c'est très à la mode des questions. Brian Ferry.
Ah ben c'est Roxy Music.
Voilà.
C'est un autre Brian. Merci d'avoir été avec nous, Brian. Bonne journée du côté de Dublin, ville magnifique que je vous conseille de visiter. C'est très sympa Dublin. Ouais. Si vous pouvez pas aller à Dublin parce que vous manquez d'argent, vendredi 13, inscrivez-vous maintenant pour gagner jusqu'à 30 000 €. Ce sera vendredi 13, donc vous envoyez 13 en chiffres ou en lettres par SMS au 732 16, 13 par SMS au 732 16. Vous vous inscrivez, vous avez 10 minutes et ensuite vous êtes tiré au sort. Vendredi, vous pourrez faire tourner la roue et vous aurez jusqu'à 30 000 € à gagner. Ce sera le jackpot. Il y aura 2 000, 10 000, 13 000 €, 5 000 €, 3 000 € à gagner. Bref, à tous les coups, vous pourrez empocher un peu d'argent net d'impôt, parce que c'est du gain de jeu. Dans un instant, peut-être le futur président de la République avec les grandes gueules.
Probablement.
Le député socialiste Jérôme Guedj.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.